Merci Élodie Forêt, on vous retrouve à 9h pour le journal. Bonjour à toutes et à tous.
This is Bob Woodward of the Washington Post.
Bob est un bon journaliste, un type bien et un rédacteur compétent.
Nous avons quelques informations sur ce sujet par d'autres sources et bien sûr on veut faire des recoupements.
This is terrific stuff. Where did you get it?
Trouvez une autre source. Ben merde.
Ce type est bon. Il est aussi bon journaliste que tous ceux avec qui j'ai travaillé.
Le secret des sources.
Frédéric Barrère.
Bienvenue dans le secret des sources et les coulisses de l'information. Il y a eu le coup de semonce des régionales, la menace du Front National et l'engagement promis, juré, de ne plus faire de la politique comme avant. Une campagne des régionales vécue comme un coup de poing en pleine figure, comme l'a déclaré Xavier Bertrand, président aujourd'hui de la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie. Un coup de poing face à des électeurs déçus, trahis, disait-il, par les politiques et qui ne voulaient plus rien entendre. Aujourd'hui, 7 semaines après les régionales, de quoi parle-t-on en politique? Du livre de Nicolas Sarkozy, du livre de Jean-François Copé, des primaires à gauche, de déchéance de la nationalité, ancienne et nouvelle formule, de la démission de Christiane Taubira. On ne fera plus de la politique comme avant et pourtant le casting et le débat politique ne donnent pas l'impression d'aller vers un renouvellement. Alors après la colère de certains électeurs le mois dernier, le burn-out guette-t-il les journalistes face à une classe politique figée? On en parle ce matin dans le secret des sources avec nos invités qui ont l'air en forme. Yves Tréhard, bonjour.
Bonjour Frédéric, bonjour à tous.
Éditorialiste et directeur adjoint de la rédaction du Figaro, Nicolas Chapuis, bonjour.
Bonjour.
Journaliste au service politique du Monde en charge de la gauche, Jérémy Colladou, bonjour.
Bonjour.
Journaliste notamment pour la revue trimestrielle Charles et pour Slate. Et nous rejoindrons en cours d'émission un observateur critique de la vie politique, Alexandre Malafaï, président du think tank Sinopia. Notre regard extérieur aujourd'hui, Isabelle Véramasson, historienne, sociologue des médias, directrice du laboratoire communication et politique au CNRS. Bonjour Isabelle.
Bonjour.
L'actualité de l'étranger, nous irons en Chine rejoindre notre correspondante à Pékin, Dominique André. Le clin d'œil de la semaine est signé Yacine Bouzard dans les coulisses de l'émission. Antoine Tricot, Mathias Mégy, Vincent Abouchard. Avec aux manettes aujourd'hui Jean Frédérics. Vos commentaires, vos réactions sont les bienvenus sur notre nouveau site franceculture.fr. N'hésitez pas à nous écrire. Vous êtes chez vous sur France Culture et dans le secret des sources.
Elle est partie, elle n'est plus ministre de la Justice depuis ce matin, remplacée par Jean-Jacques Urvoas. Et vous avez été nombreux à appeler le 3921 pour nous dire ce que vous pensez de Christiane Taubira.
Laurent Wauquiez, colère sociale, elle s'exprime actuellement. On le voit avec les chauffeurs de taxi, avec les agriculteurs, avec les fonctionnaires, payés 2000 euros net par mois, moins bien payés que partout ailleurs en Europe.
Bonjour Christophe Madrolle.
Bonjour Zachili.
Alors vous n'êtes plus un petit jeune, hein, mais vous êtes un des nouveaux visages de la politique dans ce pays. Secrétaire général de l'UDE, les Français ne connaissent pas bien. Qu'est-ce que c'est? C'est une cabine téléphonique ou c'est un vrai petit parti qui monte?
Le secret des sources.
Voilà, on vient d'entendre trois voix de commentateurs politiques, Jean-Michel Apathy, Jean-Jacques Bourdin et Jean-François Aquili, interroger leurs invités sur l'actualité de la semaine. Et cette semaine, l'actualité politique, c'est aussi donc des livres, celui de Nicolas Sarkozy, La France pour la vie, paru lundi dernier, et celui de Jean-François Copé, Le sursaut français, publié il y a 10 jours. Alors je crois que la maison d'édition Plomb a largement distribué le livre dans les rédactions. Ça a été le cas au Figaro, au Monde.
Oui, bien sûr.
Jérémy Colladou.
Oui, partout. Bon, tout le monde. Je crois que tout le monde l'a lu.
Est-ce que tout le monde l'a lu? Je ne sais pas. Yves Tréhard du Figaro, est-ce que quand vous avez reçu ces deux livres de Nicolas Sarkozy et de Jean-François Copé, est-ce que ces deux livres vous ont mis en appétit?
Écoutez, c'est mon métier, donc je les ai lus. Il fallait que je les lise en plus parce que je devais écrire notamment sur le livre de Nicolas Sarkozy que j'ai eu la chance de saisir à la tombée d'un camion la veille de sa distribution aux journalistes précisément. Et donc je les ai lus. Je dois dire que j'étais assez surpris et agréablement surpris par le livre de Nicolas Sarkozy que je ne pensais pas, enfin je ne m'imaginais pas qu'il puisse écrire un livre aussi bien dans la forme et qu'il aille aussi loin si vous voulez, dans certains aveux ou dans certaines remises en question.
Vous dites qu'il était nécessaire dans votre édito du 22
je
janvier.
Je dis qu'il est nécessaire. Oui, il était nécessaire. Ouais. Est-ce qu'il sera suffisant? Permettez-moi d'en douter. Parce que je pense qu'il va être diversement accueilli. Bon, il n'y a qu'à peine une semaine maintenant qu'il est dans le commerce, puisqu'il est dans le commerce depuis lundi. Mais cela dit, c'est pour un livre politique, sincèrement, on en reçoit énormément. Il n'y a pas beaucoup de bons livres politiques écrits par des politiques. Et celui-là, je trouve qu'il est dans la veine de celui de François Fillon, que j'avais aussi bien apprécié et qui m'avait agréablement surpris, sincèrement.
Et qui, lui, s'est très bien vendu.
Qui s'est très bien vendu, je crois, à aujourd'hui, plus de 80 000 exemplaires. On verra ce qu'il en est de Nicolas Sarkozy, mais on ne peut pas dire que ce sont des mauvais livres.
Il manque pas l'information principale, Yves Tréhard.
Laquelle ?
Sur la primaire. Sera-t-il candidat ou pas?
Oui, mais je pense que... Bon, écoutez, là aussi, c'est du calcul. Il fallait pas s'imaginer que ça soit par un livre qui dise « je vais être candidat ». Ça, il va nous le dire un jour, si d'ailleurs, il va jusqu'au bout. Et ça, c'est un vrai sujet de conversation et de prospective
politique. Je crois que c'est sur Facebook qu'il a annoncé sa candidature à la présidence de l'UMP.
C'est effectivement sur Facebook. Est-ce qu'il va vraiment être candidat à la primaire? Je peux pas vous répondre à 100%.
Pourquoi ne vient-il pas au Figaro et va-t-il sur TF1 le dimanche soir?
Écoutez, faut lui demander. Probablement qu'il préférait donner une interview dans un média parlé que de s'exprimer à travers les colonnes d'un journal.
Nicolas Chapuis, Jérémy Collado, le livre de Nicolas Sarkozy. Je ne sais pas si vous l'attendiez, mais est-ce que vous êtes un lecteur aussi satisfait que Yves Tréhard?
Ouais, satisfait, j'y arrive pas jusque-là. Je ne sais pas si on l'attendait, mais il y avait quelque chose de très attendu, en tout cas de la part de Nicolas Sarkozy, qui était cet exercice du mea culpa. On l'a vu, tous les journaux, le lendemain, on titrait là-dessus. C'était attendu, c'était peut-être nécessaire, et c'est au fond très très classique, parce que ce qu'on voit dans chacun de ces livres politiques qui sort, que ça soit Jean-François Copé, un peu moins François Fillon, mais Nicolas Sarkozy très fort, c'est une forme de droit d'inventaire qu'ils s'appliquent à eux-mêmes, pour pas que les autres le fassent, et donc ensuite pour pouvoir enchaîner sur la suite de leur campagne. Donc avec ce livre, Nicolas Sarkozy cherchait un peu à solder les comptes. Il a fait un mea culpa sur tout un certain nombre d'arguments que ses adversaires auraient pu lui resservir dans l'année. Et ça lui permet de mettre un peu tout ça de côté. Mais c'était dans la forme très attendue. Et après, dans le livre politique en lui-même, il y a quelque chose là, dans cet exercice de très français, dans le comeback en politique de Sarkozy, qui à travers ce livre tente de se relancer. On va voir au niveau des ventes si ça marche. Il semblerait qu'il y ait une certaine appétence pour ce livre. Jean-François Copé, j'en suis un peu moins sûr, en tout cas sur les ventes. Mais il y a quelque chose de très classique dans la démarche qui, je pense, au fond, ne va pas faire bouger beaucoup les lignes.
Je voulais ajouter un tout petit truc.
Allez-y, Yves Tréhard.
Sur la forme, c'est pas aussi... Je pensais pas que ça serait ça, justement. Je trouve que c'est assez soigné. Le style est assez soigné. On peut d'ailleurs...
Il est assez personnel. Je sais pas s'il est soigné, mais il est personnel.
Se poser beaucoup de questions sur le making-of du livre.
Et qu'est-ce que ce serait si c'était pas soigné?
Jérémy
Collado. Non, mais écoutez, vous avez...
Parce que la syntaxe, moi, on parlait de l'émission de ce matin, je crois que c'est sur le burn-out. L'un des gros trucs qui peut déprimer en lisant ce livre, c'est quand même la syntaxe. Il y a des phrases qui sont pas françaises.
Non, là, je crois que vous exagérez, parce qu'il y a énormément de livres politiques écrits par des politiques ou pas, d'ailleurs, parce que la plupart ne sont pas écrits par des politiques, qui sont vraiment des livres bruts de pommes. Et là, je pensais que ça serait vraiment beaucoup plus brut. Alors, je sais qu'il est de bon ton, et,
non,
et c'est bien
bon ton,
de dire
cas,
que
on
Sarkozy,
est sûr que c'est lui qui l'a,
Sarkozy,
qui l'a écrit.
C'est Sarkozy, machin, j'en sais rien, vous le savez, moi,
non,
j'en sais rien.
C'est ce qu'il dit, il dit
oui,
qu'il
mais
l'a écrit.
Est-ce que vous le croyez?
Bah, visiblement.
Vous feriez bien de vous poser quelques questions.
Quand je le lis, je le crois.
Moi, je me pose encore la question, vous voyez, parce que les hommes et les femmes politiques ont l'habitude quand même de nous rouler de temps en temps dans la farine. C'est une question qui peut se poser. Et sincèrement, quand vous entendez les discours de Nicolas Sarkozy, quand vous voyez ce qu'il écrit ici ou là, vous pouvez légitimement vous dire, c'est quand même beaucoup plus soigné que le style Sarkozy.
Alors, moi, je regrette.
Jérémy Collado.
Une première chose, c'est que Henri Guénaud l'est un peu quitté, puisque c'est peut-être lui qui aurait pu écrire quelques passages de ce livre. Et la deuxième chose, moi, qui me fascine un peu dans cette discussion, c'est à quel point on peut tous se répéter en disant le mea culpa, le mea culpa. Alors, ok, on a compris que c'était la stratégie de Nicolas Sarkozy de dire c'est le mea culpa.
C'est même pas un mea culpa.
Un moment,
d'ailleurs,
un moment. Mais si on recense les choses, non, bien sûr, mais il en recense quelques-unes. Et à un moment, il dit l'ouverture, c'est quelque chose. C'était une erreur finalement, et la justification de cette erreur, c'est de dire, ça donnait une image trop apaisée. En gros, j'ai fait venir des gens de gauche, j'ai fait venir des gens du centre, et finalement, ça donnait une image trop rassembleuse.
Vous l'avez mal lu, parce qu'il dit
pas... Non, c'est ce qu'il dit.
C'est marrant, l'ouverture, c'est pas un de ses regrets, justement. On aurait pu penser que ça soit un de ses regrets. Il dit, c'est pas un de mes regrets, je l'ai mal faite. Mais si c'était à refaire, oui, donc c'est un regret. Je referais une ouverture. Donc il a énormément de regrets sur des sujets d'ailleurs qu'on peut contester effectivement, où il a, bon, après qu'il fasse son mea culpa, moi je suis pas de ceux qui trouvent que les hommes politiques ou les femmes politiques doivent faire leur mea culpa, parce qu'ils l'ont fait, on s'en moque un peu, ce qui nous intéresse c'est l'avenir. Mais en l'occurrence là, c'est étonnant d'ailleurs, parce que là, l'ouverture, il dit pas que c'est un regret pour lui. Il dit je l'ai mal présenté, je l'ai mal faite. Mais si c'était à refaire, c'est écrit noir sur blanc, je la referais.
Mais le vrai truc révolutionnaire, ce serait que ce soit les journalistes qui fassent leur mea culpa.
Eh ben justement, les deux thèmes du moment. Il y a les deux livres dont on parlait, les deux thèmes du moment dont on parle beaucoup, donc déchéance de la nationalité, primaire à gauche. Bon, est-ce qu'il faut faire un mea culpa? Est-ce qu'on en parle trop? Est-ce que ça intéresse le plus grand nombre, Jérémy Collado?
Les primaires à gauche, ouais. Non, je pense qu'elles intéressent absolument personne.
Je suis allé voir sur le site pétition 74 000 signatures, et puis sur notre site change.org, donc qui propose plusieurs pétitions à la signature. Ben c'est Jacqueline Sauvage qui rassemble 400 000 soutiens. Jacqueline Sauvage, donc, dont la famille a été reçue hier par le président de la République François Hollande, est condamnée à 10 ans de prison pour le meurtre de son mari qu'il a maltraité pendant plus de 45 ans. Il faut plus parler de Jacqueline Sauvage, alors, si je vous comprends bien.
Je sais pas, après, je pense qu'il y a différents médias où on peut exprimer des sensibilités. Ça, dire qu'il faut répondre forcément à une demande du public, moi j'y crois pas forcément. Je travaille pour des médias, notamment la revue Charles, qui est l'exact inverse de ça. Nous, on fait le pari d'un journalisme plus de l'offre, en se disant, on va publier des histoires intéressantes, passionnantes, décalées, raconter, prendre son temps. Et c'est ça qui va nous faire avoir un public. Après, je comprends que pour des gens qui sont dans des quotidiens comme mes voisins, toi, il faut parfois remplir des cases.
Dites-moi, vous avez travaillé au Figaro?
J'ai fait un stage au Figaro, ouais. J'étais ravi d'ailleurs. Je voyais la conférence de rédaction avec Yves Tréhard. Et oui, non, j'étais ravi, j'ai appris beaucoup de choses. Simplement, je pense que l'exercice du quotidien, bah, impose une forme de rapport de force avec les politiques, notamment, et un suivi quotidien de la politique fait qu'on est un peu moins libre, à mon avis, de ce qu'on peut raconter. Voilà.
Nicolas Chapuis.
Je pense que c'est pas une question de liberté. Il y a des choix éditoriaux qui ont été faits très clairement en cette rentrée. L'accent a été mis beaucoup sur la déchéance de nationalité dans tous les journaux. Il y a l'actualité parlementaire parce qu'elle est faite de ça aujourd'hui. Il va y avoir cette réforme constitutionnelle et il y a ce sujet qui est quand même très important. On va modifier notre constitution pour inscrire des nouveaux articles à la fois sur l'état d'urgence, sur la déchéance de nationalité. C'est pas des petits sujets.
C'est pas des petits sujets, mais l'adhésion.
Le fait est que c'est peut-être pas ce dont les gens parlent aujourd'hui dans leur dîner de famille. Ils parlent peut-être beaucoup plus des questions sociétales, du chômage, de leurs problèmes économiques. Mais c'est aussi notre responsabilité à un moment de parler de ces sujets-là qui intéressent pas forcément énormément. Quant à la primaire sur la gauche, il faudra voir. Aujourd'hui, c'est un embryon, cette primaire. Le niveau de signature veut pas dire qu'il n'y a pas d'intérêt pour ce processus éventuellement dans les mois qui viennent. Mais il faudra savoir parce que ça ne fait que démarrer de ce côté-là.
Yves Tréhard.
Il y a une chose que je voudrais quand même souligner sur la déchéance de nationalité, par exemple. Ce ne sont pas les journalistes, ce ne sont pas les médias qui font l'actualité. Il faut le répéter. Tout comme nous ne faisons pas la popularité des uns ou des autres. Ce sont eux qui sont responsables de leur popularité ou pas. Ce sont eux qui sont responsables du tempo politique et de quoi parle aujourd'hui, et c'est bien ce que une partie des Français leur reproche, qu'ils soient de droite ou de gauche d'ailleurs, ces députés, ces sénateurs, ces élus, de quoi parlent-ils? Ils parlent essentiellement de la déchéance de nationalité. Donc la balle est dans leur camp. Si ils n'ont pas compris qu'effectivement il y a une partie des Français, même si d'après ce que j'ai lu dans les sondages, une majorité approuve cette réforme, eh bien, je pense qu'il y en a une très forte majorité aussi qui en ont, mais ras la casquette, parce que ils voudraient qu'on leur parle d'autre chose, et autrement, surtout. Et c'est là où se trouve peut-être la faille, ou la distance qui est de plus en plus posée entre le public, les Français, et leur personnel politique.
Le secret des sources. Frédéric Barrère.
Isabelle Véramasson, historienne, sociologue des médias, puisque nous parlons de livres politiques qui viennent de paraître. Il y a eu des critiques peut-être sévères sur ces ouvrages ou fondées. En tout cas, le livre a un rôle important pour les personnalités politiques.
Oui, finalement, c'est assez amusant de penser que le plus vieux média, probablement actuel, le plus ancien, est à la fois le plus prestigieux, parce qu'il est à la fois un signe de connaissance, de culture, et il faut savoir lire pour lire, alors que la télévision, il suffit de regarder. C'est le média de l'école, c'est aussi un média qui, face au support volatile, inconstant, reste. On peut le mettre au milieu du salon et le reconsulter, et puis on peut le faire écrire par quelqu'un d'autre, ce qui peut être pratique pour certaines personnes, ce qu'on peut pas faire pour d'autres, pour des émissions ou de radio, télévision. Enfin, en France, la culture est valorisée plus qu'ailleurs, peut-être, et du coup, les hommes politiques ont toujours donné beaucoup d'importance aux livres, depuis Napoléon, mais c'est probablement cité d'Orgeois, mais Mitterrand était valorisé pour sa culture, on est toujours en train de le citer. On a eu un Churchill qui était quand même prix Nobel de littérature. Le livre possède un statut à part, et le monde politique vite symbole. Alors, le livre a plusieurs fonctions, en fait, il faut quand même très rapidement le dire. Alors, je ne parle pas des écrivains qui se mettent à faire de la politique, Chateaubriand, Malraux, Orsenna, etc., ni non plus des politiques qui se mettent à faire de la littérature, mais plutôt des politiques qui se servent du livre comme d'un acte politique fort. Alors, ils le font souvent pour se présenter leur programme, leurs propositions, l'annonce d'une candidature, ma part de vérité, par exemple, Mitterrand était le signal que ça y est, ce serait avec lui qu'il faudrait faire. Et puis, c'est souvent pour donner sa version des faits. Les médias passent, le livre va essayer d'imposer la vision du politique sur son action passée. Par exemple, le livre bilan, moi je pense au livre très beau d'ailleurs de Ségolène Royal, Ma plus belle histoire d'amour c'est vous, en 2007, dans lequel elle revient sur sa campagne et elle veut imposer sa version des faits. Et puis il y a toutes ces livres qui vont permettre aux hommes politiques à la fois de donner leur vision des faits pour l'avenir, on pense une nouvelle naissance. Le livre de Pompidou, le Nœud gordien, était de cet ordre-là, c'est-à-dire qu'il signalait qu'il n'était pas que un premier ministre qui pouvait faire autre chose. Et puis Nicolas Sarkozy, vous en avez parlé, avec Libre et puis La France pour la vie. Et puis surtout, le livre a un avantage extraordinaire dans notre situation de médias de masse, c'est qu'il va s'imposer à l'agenda des médias. Moi, je crois que c'est la première fonction de Jean-François Copé, du livre de Jean-François Copé, c'est que grâce à ce livre dans lequel je ne crois pas qu'il y ait des choses essentielles, il va être invité par les médias. C'est ce que disait Yves Tréhard. Finalement, l'homme politique s'impose à l'agenda des médias par un certain nombre de mesures, de discours, et aussi par le livre. Il va falloir l'inviter. Ça va être pareil pour Nicolas Sarkozy. Le risque, c'est qu'à force de multiplier les livres, on ne va pas forcément convaincre. On est balayé, les uns sont balayés par les autres. Et cette concurrence, elle se fait sur les vieux médias comme sur les médias les plus récents, en fait.
La politique française à la petite semaine, il y en a ras-le-bol, vous voyez.
Maintenant,
moi aussi, je suis journaliste, je suis fatigué comme tout le monde et j'en ai marre d'être obligé de commenter des inepties. Que Jean-François Copé préside une UMP divisée, pourrie, qui ne fonctionnera pas. Et puis voilà, mais maintenant, il y en a marre, quoi.
Voilà l'éditorialiste Olivier Mazerolle en novembre 2012. C'est loin. D'ailleurs, l'UMP ne s'appelle plus l'UMP, mais les Républicains. Un coup de fatigue du journaliste au moment de l'incroyable bataille pour prendre la tête de ce qui est alors l'UMP entre François Fillon et Jean-François Copé, Nicolas Chapuis, Jérémy Collado. Jérémy Collado, vous êtes encore jeune, vous n'êtes pas aussi démoralisé que l'on vient d'entendre Olivier Mazerolle.
Non, mais c'est drôle. J'aimerais bien qu'il soit comme ça plus souvent. Non, je suis pas démoralisé, mais je pense que le burn-out, c'est aussi quelque chose peut-être qu'il faudrait un peu définir. Et je pense qu'aujourd'hui, là, on parle pas assez de la précarisation totale des journalistes, de ce métier. Je crois que sur une année, la moitié des cartes de presse qui sont données aux journalistes sont données à des gens qui sont pas en CDI. Moi, par exemple, je suis journaliste indépendant. J'ai décidé d'être indépendant pour l'instant. Et je sais que ça me porte vers des thématiques aussi vers lesquelles je suis plus concerné. On parlait tout à l'heure de déconnexion entre les journalistes, les politiques et les gens qui lisaient les journaux de moins en moins. Je pense que c'est lié à ça. Est-ce que les journalistes sont concernés par les sujets dont ils parlent? Pourquoi on parle beaucoup plus de déchéance de nationalité ou de la primaire à gauche que de chômage? C'est assez... voilà. Et la deuxième chose, je pense que si on veut arrêter de parler de façon abstraite, il faut parler des conditions de production des journalistes. Une chaîne comme BFM TV, au-delà de la ligne éditoriale qu'elle a, elle emploie des gens, où je parle de BFM TV, mais je parle de d'autres médias, sûrement au Figaro, au Monde, dans des grands médias. Il y a beaucoup de gens qui sont dans des CDD qui s'enchaînent, des choses comme ça. Et c'est ça le vrai burn-out. Alors les journalistes ne sont pas les plus à plaindre. Mais ceci dit, je pense que dire ça, c'est relativiser la souffrance sociale de nombreux journalistes. Parce que peut-être qu'il a un crédit, le journaliste, au niveau de la reconnaissance sociale. C'est sûr que ça le fait bien de dire qu'on est journaliste à Charles, à Slate, au Monde, etc. Mais la réalité concrète du métier, elle n'est pas aussi flamboyante que ce qu'on veut le croire et tel que ça apparaît aussi parmi de nombreuses personnes.
Nicolas Chapuis.
Moi, je ne parlerai pas de burn-out, mais il peut y avoir en journalisme politique une fatigue qui, pour moi, est surtout due au fait qu'on est rentré dans un système où on est en campagne présidentielle permanente. Là, l'extrait qu'on entendait avec Olivier Mazerolle, à l'époque, finalement, il se battait François Fillon et Jean-François Copé pour la prise du parti de l'UMP, mais c'était pour être celui qui allait être là pendant 5 ans et être le candidat à la présidentielle en 2017. Là, aujourd'hui, les campagnes présidentielles durent beaucoup trop longtemps. Là, on est déjà dedans. C'est notre faute. On a une responsabilité là-dedans, puisque nous, on vend ces batailles-là. C'est plus simple de parler de bataille entre Sarkozy aujourd'hui et Juppé que d'aller raconter le quotidien, est-ce qu'il défend des idées, etc. On raconte, on met en scène beaucoup cette bataille-là, mais c'est beaucoup trop long. On écrit plein de fois le même papier, en fait, et on va en écrire encore plein d'ici 2017 qui vont raconter cette bataille. Et cette longueur, elle est due à l'accélération du temps politique, du fait qu'on n'ait plus le temps de débattre vraiment des sujets de fond. Elle est due à beaucoup de choses. Elle est due à la primarisation de la vie politique aussi. Le fait qu'il y ait des primaires, ça fait que à l'origine, on se bat déjà pour savoir si on va être candidat à la primaire pour être candidat à la présidentielle. Et tout ça, ça a rallongé ce temps de campagne qui fait qu'au final, on n'a plus vraiment le temps de raconter la vie politique au-delà de ça.
Yves Tréa, du Figaro.
Oui, moi, je suis pas tout à fait d'accord avec le fait qu'on ne, y a plus de débat et tout. Je sais que c'est une chose qui est régulièrement répétée, y compris par un dernier élu à l'Académie française, Finkielkraut, qui dit que le débat n'existe. Je suis désolé. Vous regardez l'offre médiatique qu'il y a en France. Vous avez un nombre de médias, mais colossal par rapport à l'époque, mais je vais pas la citer, où j'ai commencé dans ce métier. Et notamment des médias parlés, beaucoup plus effectivement que des médias écrits. Même si les médias écrits, il y a de plus en plus de médias de réflexion, justement, qui prennent le temps avec une écriture longue et tout ça. Donc, moi, je crois pas qu'il y ait
21, Charles.
Charles, 21. Ouais. Et puis,
même Slate.fr aussi.
Et les sites internet aussi, ouais. Parce que vous avez des sites internet d'information immédiate, mais vous avez l'immédiate, mais vous avez aussi des sites d'information où il y a une offre de réflexion importante. Donc moi, je crois que c'est pas tellement ça. Alors le burn-out, moi, je suis pas tellement d'accord avec ça. On fait notre métier. Alors, je suis d'accord sur la précarisation de beaucoup de journalistes et surtout de beaucoup de journalistes qui exercent leur métier dans des conditions précaires. Néanmoins, on a encore la liberté d'aller enquêter, on a la liberté d'aller voir derrière le rideau comment ça s'est fait, comment ça s'est produit. Et je pense qu'il y a quand même de la pour les Français qui s'en donnent la peine. Et pour les Français qui veulent savoir, il y a matière quand même à s'informer et à voir au-delà des 3 minutes d'info, du flash info, quoi. Et je crois que le problème, le burn-out, il vient d'où? Des Français, des hommes politiques et des journalistes. C'est qu'on n'a pas réussi à trouver les solutions aux problèmes qui se posent à nous dans la vie quotidienne. Il est là le sujet. Quand vous étiez dans les 30 glorieuses, vous posiez moins de questions, la vie était plus heureuse d'une certaine façon, parce que, eh bien, vous aviez de la croissance, de l'emploi, l'école fonctionnait normalement. Aujourd'hui, vous regardez, partout où vous retournez, il y a quelque chose qui cloche. Il n'y a pas d'emploi. L'école, sauf si on habite dans un quartier ou qu'on va dans un lycée prestigieux, c'est pas ça. Le système hospitalier, il déborde, il est complètement étouffé. Donc, si vous voulez, vous avez des problèmes et vous vous apercevez que les hommes et les femmes politiques n'arrivent pas à y répondre parce qu'ils n'ont pas de courage, il faut le dire. Les journalistes, on raconte ce qui se passe, les Français, eux, ils subissent.
Mais les journalistes aussi, ils peuvent avoir du courage. Ils peuvent aussi raconter des choses. On n'est pas obligé de suivre l'agenda politique.
Oui, mais vous ne pouvez pas transformer la réalité.
Non, on ne peut pas la transformer,
si
mais on peut la raconter
dans un hôpital, y compris d'ailleurs dans un hôpital pas loin d'ici, à Georges Pompidou, vous allez voir qu'il y a des problèmes.
Mais
ce serait jamais posé.
On ne peut pas transformer la réalité. Mais quand on parle aux Français dès 2012, dès 2013, nous, journalistes, on leur parle déjà de la campagne de 2017. Moi, je pense qu'on les fatigue et qu'on se fatigue nous-mêmes. Parce qu'on n'est pas en train de penser aux 2 années qui viennent. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que François Hollande devait faire à ce moment-là, etc. On était déjà en train de préparer la prochaine compétition. Déjà, à ce moment-là, on était en train de dire, et Arnaud Montebourg, est-ce qu'à la fin, il va venir bousculer François Hollande? Et est-ce que Manuel Valls va venir le bousculer? Et pareil sur la droite. Et à ce moment-là, nous, bien sûr, c'est caricatural, on le racontait aussi d'une autre façon. Mais déjà, nous, à ce moment-là, on mettait en scène cette future bataille. Et je pense que de ce point de vue-là, il y a une fatigue des Français qui élisent à peine quelqu'un et tous les autres hommes politiques sont déjà en train de penser à l'échéance d'après. On voit voit des articles où on est en train déjà de parler des ambitions de Manuel Valls pour 2022. Ouais, ouais. On est déjà en train de préparer la prochaine campagne, et je pense que ça, ce journalisme politique-là, à un moment, va trouver sa limite, parce que les gens sont fatigués d'entendre ça, et parce que c'est qu'une question d'ambition personnelle, et qu'ils n'ont pas envie d'entendre ça quand eux ont du mal à savoir ce que le mois prochain ils feront, le mois d'après ils feront,
peut-être,
etc.
Mais
rapidement, Jérémy Collado, rapidement.
D'abord, il y a une offre médiatique qui est bien supérieure à celle qui existait par le passé, avec tous ces débats. Et la deuxième chose aussi, c'est que je crois que les Français, contrairement à ce qui est dit partout, sont passionnés par la politique. Ils regardent la politique, ils lisent la politique, ils sont passionnés par la politique. La politique ne les désintéresse pas du tout.
Et c'est pas n'importe quelle politique.
Isabelle Vermasson.
C'est pas n'importe quelle politique, parce qu'en fait, on s'aperçoit depuis toujours, depuis qu'on étudie en sociologie des médias la question de communication politique, en France et ailleurs, que les médias couvrent essentiellement ce qu'on appelle la course de chevaux. Mmh. C'est-à-dire effectivement la compétition entre les hommes politiques. C'est vrai dans la plupart des pays dans lesquels ça a été étudié. Et on couvre essentiellement 70% du temps consacré à la politique et consacré à la course de chevaux. Donc c'est vraiment énorme. Et c'est vrai que c'est quand même ça qui intéresse les gens. C'est un petit peu la difficulté. C'est que c'est très difficile de ne pas donner.
Je pense que si on leur donnait pas ça, ils regarderaient pas ça. Ah, et je pense que le problème est aussi, vous parliez de renouvellement de la classe politique. Le problème, c'est qui, dans les rédactions, dirige les services politiques? C'est rarement des gens de mon âge. Mais alors, pas pour diriger, mais il y a rarement de reporters politiques. Aujourd'hui, le journalisme politique, il fait plus fantasmer Nicolas et moi de notre génération. On doit être les derniers, avec quelques-uns qui sont dans la revue Charles, ou voilà, à être passionnés par la politique.
Je pense que si on lance une petite annonce, il y aura du monde.
Hein. Ah oui, mais parce qu'il y a besoin de travail. Parce qu'il y a besoin de travail, monsieur Traer.
Pop sur France Culture, Break Into Your Heart, extrait de son prochain album qui sortira en mars. Alors nous sommes en ligne avec Alexandre Malafaille, écrivain et président du think tank Sinopia. Vous avez publié, Alexandre Malafaille, Reprenons le pouvoir, manifeste pour notre droit à être bien gouverné. Alors il y a les politiques, mais il y a aussi la presse qui relaye les discours, les petites phrases, les livres qui paraissent, on en parle en ce moment. Alors vous voulez être bien gouverné, Alexandre Malafaille, est-ce qu'au moins vous avez le sentiment d'être bien informé?
J'ai surtout le sentiment d'être surinformé. Et je pense que ça va être un sentiment vraiment général, avec malheureusement le sentiment d'une espèce de saturation d'antenne sur le dérisoire. Peut-être tout ne l'est-il pas, mais c'est vrai que quand on entend depuis ne serait-ce qu'un mois, entre le livre de l'un, le livre de l'autre, donc Sarkozy, Copé, quand on voit la place qu'on fait, la place qu'on accorde à des livres de certains qui n'auraient sans doute pas dû pouvoir revenir, on annonce maintenant le livre de Christiane Taubira, je me demande si les Français s'y retrouvent. Et en plus, dans tout ça, il y a une espèce de confusion des mots, avec des polémiques incroyables. On confond les mots MAUX dans des espèces de mots, de MOTS. Voyez, on dit qu'on est en guerre, on parle d'apartheid. Je ne sais pas comment les gens font pour s'y retrouver et le débat qu'on a depuis Noël.
Alors guerre et apartheid, ça a été employé par les hommes politiques. Hein.
Oui. Alors je rebondis. Je suis d'accord sur ce qui a été dit tout à l'heure dans votre émission. C'est souvent malheureusement les hommes politiques qui n'ont pas de courage, comme l'a dit Israël, mais qui par contre occupent le devant de la scène avec toujours en permanence cette espèce de récurrence de sujets qui sont pas fondamentaux. En tout cas, on n'est pas sur l'essentiel. Et je crois que tout à l'heure le mot de burn-out a été présenté. Je crois que c'est plutôt un problème de burn-out du système et qu'il va falloir vraiment qu'on répare ce système, qu'on répare le logiciel, parce que sinon on va bientôt devoir jeter l'ordinateur de la démocratie. Hein. Ça marche plus du tout, cette histoire.
Alors la primaire à gauche, Alexandre Malafaye, cette idée de primaire, est-ce qu'elle vous séduit ou s'il y a une crainte pour vous dès qu'elle soit confisquée au final?
Écoutez, je ne sais pas si elle va être confisquée, je ne sais déjà pas si elle aura lieu. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que là encore, je pense qu'on fait trop de bruit sur des choses qui ne sont pas essentielles. Et le décrochage, il est total dans l'esprit des Français. Il suffit de regarder quelques indicateurs. Il y a un baromètre Cevipof qui a été publié, comme chaque année, en janvier. On n'en a pas beaucoup parlé. Pourtant, ça dit des choses incroyables. Ça dit que 88% des Français pensent que les politiques ne prennent pas l'avis des Français en compte. Ça dit que 39% des Français sont dégoûtés par la classe politique. 76% pensent que les politiques sont corrompus. 76% des Français n'ont pas confiance dans les médias. Donc non seulement ils n'ont pas confiance dans les politiques, mais ils n'ont pas confiance dans les médias. Donc il y a quelque chose de très grave, une espèce de spirale absolument infernale, et les chiffres s'empirent d'année en année. Moi, ce qui me préoccupe par rapport à ça, en tant qu'observateur, en tant que président de think tank, c'est on attend quoi ? On voit maintenant le Front National, on a été traumatisé avec les régionales, on est passé à 28, 30%, on attend quoi? 35, 40%? On attend quoi? On attend avec toujours les mêmes discours, les mêmes acteurs, les mêmes messages, on fait de la politique comme toujours. Il y a un problème d'exaspération de la société, et à un moment donné, les Français vont peut-être renverser la table. Alors je crois qu'il faut réagir. Nous, en tout cas, c'est ce qu'on pense, il faut réagir, il faut accélérer le mouvement. Les deux politiques devraient écouter la société civile. Il y a un foisonnement de gens extraordinaires en France qui sont là, qui sont porteurs de solutions. On vient de publier une lettre ouverte il y a quelques jours où on dit écoutez la société civile, écoutez-nous, associez-nous. Les journalistes devraient nous aider. Je pense que les journalistes, effectivement, font bien leur métier. Israël a dit tout à l'heure que les politiques n'avaient pas de courage. Il a raison de le dire. Mais vous devriez, vous les médias, comme vous le faites maintenant, merci, d'ouvrir davantage vos colonnes, vos antennes aux gens de la société civile qui sont porteurs de choses intéressantes, sachant que la société est prête. 70% des Français sont aujourd'hui prêts à se réunir au-delà des clivages partisans. Donc il faut apprendre à parler aux Français, il faut apprendre à les associer, il faut faire de la pédagogie. Et nous, par exemple, pour amener justement à ce renouvellement, vous avez parlé à plusieurs reprises dans votre émission de renouvellement de la classe politique, nous on pense qu'il faut accélérer ce renouvellement, et avec Sinopia, avec notre think tank et d'autres organisations, on va lancer prochainement une primaire d'initiative citoyenne, qu'on va appeler la vraie primaire, voilà, pour apporter, permettre aux Français de choisir des candidats, d'aller piocher dans le vivier de la nation. Il y a des gens formidables, des talents extraordinaires, mais qui sont bloqués par un système politique partisan qui leur laisse aucune place et aucune chance. Et il faut qu'il y ait un renouvellement de ces classes politiques, et en tout cas, il faut y contribuer. Il ne faut pas jeter le bébé l'eau du bain, il faut en prendre d'autres, il faut amener d'autres têtes, d'autres talents. Et c'est indispensable. Et si cette classe politique actuelle ne le comprend pas que la société civile est là, qu'elle bouge, qu'elle bouillonne, à un moment donné, on va devoir payer une facture très très chère.
Yves Tréhard, la société civile doit prendre plus d'importance, oui, plus de rôle.
Je suis pas tout à fait d'accord avec ça. D'abord, je ferai une observation. C'est pas propre à la France. Où que vous vous retourniez, je dirais, dans le monde occidental, la même crise existe partout en Europe. Hein, où vous avez une espèce de suspicion vis-à-vis du personnel politique qui est très très forte, y compris aux États-Unis d'ailleurs aussi, puisque vous voyez avec... Regardez aujourd'hui qui fait la course en tête dans la primaire républicaine, c'est un monsieur qui s'appelle Donald Trump. Ben, je sais pas, il n'y a pas l'équivalent de Donald Trump en France. Hein. Même Marine Le Pen, je pense pas qu'elle sorte des choses aussi tonitruantes que lui. Donc c'est un peu un phénomène général. Et pourquoi c'est un phénomène général? C'est un phénomène général pour ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que les politiques, un, ils manquent de courage. Deux, ils n'ont pas la réponse aux problèmes que se posent les gens, encore une fois. Et pourquoi ils n'ont pas la réponse? Parce qu'ils manquent de courage, mais aussi, parce que nous sommes en train de vivre une révolution comme on a rarement vécu, qui est une révolution numérique qui change tous les métiers. Regardez le conflit que vit la France avec les taxis aujourd'hui. Le conflit de l'agriculture, c'est un conflit de révolution de production aussi. Parce qu'on est dans un monde ouvert où plus rien ne fonctionne comme dans les années 60. Donc, évidemment, les Français sont confrontés à ça. Et leur politique, qui par faute d'anticipation, parce que ils ont l'éducation, ils savent, ils doivent savoir comment il aurait fallu anticiper tout ça, ils n'ont pas anticipé ça. Et évidemment, eh bien, on arrive dans une impasse. Alors la société civile maintenant aujourd'hui, mais comment on fait pour faire participer la société civile ? À chaque fois qu'il y a eu des, disons, des initiatives dans ce domaine-là, ça a été un échec complet. Regardez, il y a eu l'initiative pendant les européennes, je crois, de Monsieur Denis Père. Denis Père, qui était un chef d'entreprise qui venait de l'univers de la high-tech, il nous a dit voilà, vous allez voir ce que vous allez voir. Ben, on n'a rien vu du tout. Pourquoi ? Parce que quand il commence à faire de la politique, il fait exactement la même chose que les autres. C'est-à-dire qu'il a le même discours, la méthode est la même, et moralité, d'ailleurs, il n'est même plus à la tête de l'embryon de parti politique qu'il avait voulu créer. Donc vous voyez, c'est très compliqué. Qu'est-ce qu'on fait ? On se réunit tous à la Villette. On se réunit tous dans le parc, au stade Vélodrome. Et alors, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qu'on fait ?
Nicolas Chaffi.
Je pense qu'aujourd'hui, la crise du politique décrit M. Malafaye, elle touche aussi le journalisme politique. C'est-à-dire que nous, dans les rédactions, on se pose la question. On a des services qui sont organisés selon un schéma qui aujourd'hui est peut-être dépassé. C'est-à-dire qu'on a des services qui sont organisés. Il y en a qui couvrent la droite, qui couvrent les partis, d'autres qui couvrent la gauche. Et aujourd'hui, on se retrouve parfois à surcouvrir en fait des choses qui sont des coquilles vides. C'est-à-dire que par exemple, vous prenez le Parti Socialiste aujourd'hui, qui est décrit à longueur de journée et dans les colonnes du Figaro, dans les colonnes du Monde, dans les colonnes des autres journaux. Aujourd'hui, le Parti Socialiste, c'est quasiment rien. Il n'est pas du tout représentatif dans la société. Il y a à peine 70 000 personnes qui ont voté à son congrès. Il ne représente rien et pourtant, il détient un pouvoir qui est très important, c'est celui de désigner les candidats pour les élections. Donc il y a un décalage entre sa représentation dans la société et le pouvoir qu'il a au final. Et nous, en tant que médias, on accorde une place extrêmement importante à ces partis. On les couvre tous les jours. Et du coup, le citoyen se sent totalement décalé par rapport à ça. Lui, il n'est pas couvert, on ne le raconte pas. Après, il y a une difficulté au quotidien, c'est-à-dire comment attraper cette société civile, comment la raconter au quotidien, puisque c'est qui ? Qui est-ce qu'on fait parler ? Justement, il n'y a pas de président de parti, il n'y a pas de porte-parole de la société civile. C'est une série de gens, donc on part un peu à la pêche en général, mais peut-être que c'est à nous aussi de rééquilibrer notre couverture, de peut-être un peu moins raconter la cuisine partisane et essayer d'aller chercher un peu plus ces initiatives-là. Mais c'est très compliqué parce que souvent, on raconte aussi des initiatives qui peuvent être trois personnes dans leur coin qui sont pas très intéressantes. Et il faut trouver les mouvements qui disent quelque chose de notre société et qu'on va pas forcément chercher au quotidien.
Alors, retour, je vous promets, je donne la parole après, Nicolas Do. Retour à la politique, on a parlé aux hommes politiques, aux personnalités politiques, on a beaucoup parlé de l'infotainment avec la venue de Manuel Valls ce mois-ci à l'émission de Laurent Ruquier. Je voudrais qu'on écoute Vincent Lindon, qui était sur France Inter le 15 janvier.
Je ne sais pas comment le président de la République, quel qu'il soit, n'a pas dit au premier conseil des ministres, bon, les gars, avant qu'on commence à parler du pays, je vais vous expliquer deux, trois petites choses. 1. Rasé de près. 2. Costume sombre, cravate. Et 3. Interdiction d'aller dans les journaux et les émissions People. Est-ce que c'est bien clair, les gars ? Bon, allez, maintenant on va travailler, on se met au boulot. Un homme politique, ça va pas là. On a envie qu'il soit cravaté. Donc oui, je comprends, t'as envie d'aller au tennis ? Ben non, j'ai pas envie de te voir en chemise à Roland-Garros le 6 mai. Ça m'embête. Parce que c'est un vendredi, que pour moi, un vendredi, mon père était au bureau. Quand je vois un ministre à une émission People le soir, je me dis, mais il va se coucher tard. Il aura la tête moins bien faite demain matin pour régler les problèmes de la France. Je voudrais vénérer les politiques.
Rapidement, les réactions, il est percutant, Vincent Lindon, Jérémy Collado.
Oui, il est percutant, mais ce qu'il oublie de dire, c'est que c'est là où sont les gens, en fait. Emmanuel Valls va là-bas parce qu'il cherche un nouveau public. Il y a encore des gens qui regardent cette émission. Et là, deuxième chose, c'est que je pense que pour respecter les hommes politiques, il faut qu'on leur accorde une puissance. Je pense que les hommes politiques, ils sont pas vénérés parce qu'ils ont une cravate ou un beau costume, même si moi je suis plutôt de son avis, c'est que je pense qu'ils ont plus la capacité à transformer le réel, donc on les respecte plus.
Yves Tréhard.
Non, je suis d'accord avec Lindon à 100%. Mmh. Je pense que là, il y a une grosse responsabilité de la part des politiques, depuis longtemps d'ailleurs, on se souvient de Rocard, je ne vais pas reciter la phrase, mais il y a une responsabilité énorme. Et c'est bien d'ailleurs un des soucis de Nicolas Sarkozy, c'est que d'une certaine façon, en pensant qu'il fallait faire peuple, il s'est mis au milieu de la masse et les Français qui sont encore avec un esprit un peu monarchique, ils veulent que les politiques restent à leur place. Et on va pas à un match de foot le soir d'une élection quand on attend encore quelques résultats.
Nicolas Chapuis.
Je pense que c'est un vrai dilemme que les hommes et les femmes politiques ils ont tous les jours. On les voit quand on est à l'Assemblée, qu'on discute avec eux par exemple et qu'ils voient la caméra du petit journal qui s'approche. Ils sont toujours partagés parce qu'ils se disent si je parle à la caméra du petit journal, j'apparaîtrai peut-être dans le petit journal. Je vais paraître dans le coup et une image sympathique. Et en même temps, la plupart du temps, ils se vautrent parce que le ton est pas le bon. Et c'est aussi la faute, je ne mets pas en cause le petit journal particulièrement, mais de ce mélange. Moi, ce qui me dérange, c'est pas tant le fait qu'il y ait ce divertissement, c'est que ça soit mélangé. C'est que ça soit mélangé des cases d'informations. Et il y en a dans le petit journal, par exemple. Il y a des vraies informations que parfois ils sortent. Et ce divertissement. Et du coup, on ne sait jamais vraiment quel est le ton, qu'est-ce qui est drôle, qu'est-ce qui n'est pas drôle. Et moi, je pense que c'est plutôt ce mélange des genres qui me dérange. Les hommes et les femmes politiques, ils répondent quand même à nos sollicitations. Et c'est Exactement. À nous, en tant que médias, de savoir c'est le ton qu'on veut donner. Et quand on est un média d'information, je pense qu'on n'est pas là pour divertir les gens. Et qu'on a toujours cette tentation de faire le titre un peu drôle, de se moquer un peu, d'avoir un ton un peu moqueur. Et qu'à chaque fois qu'on cède à cette tentation-là, nous aussi, on abaisse le politique. Et nous aussi, du coup, on abaisse la matière qu'on traite, du coup on abaisse aussi notre journalisme.
Merci à tous. Alors avant d'aller à Pékin, je vous propose d'écouter le clin d'œil de Yacine Bouzard à Christiane Taubira.
L'acte que nous allons accomplir, il est fort comme le cri aigu d'un accent dans la nuit longue. Merci à vous.
Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins, à bicyclette.
Cet hémicycle tout entier a déjà constaté à quel point je vous obsède avec une constance qui appelle quand même l'admiration.
On était tous amoureux d'elle, on se sentait pousser les ailes à bicyclette.
Vous conservez pour moi quelque chose de mystérieux. Je me demande si, lorsque vous affirmez certaines choses, vous y croyez vraiment. Alors, si c'était du temps de ma fringante jeunesse, j'aurais supposé un sentiment contrarié.
Et depuis qu'elle avait 8 ans, elle avait fait, en le suivant, tous les chemins environnants.
Je quitte le gouvernement.
À bicyclette.
Je choisis d'être fidèle à moi-même, à mes engagements, à mes combats, à mon rapport aux autres, fidèle à nous, tel que je nous comprends.
À bicyclette.
Le clin d'œil de Yacine Bouzard à Christiane Taubira. L'actualité à l'étranger, nous allons à Pékin retrouver notre correspondante Dominique André. Ni hao, Dominique.
Ni hao, bonjour Frédéric.
Dominique, on a parlé de la question du renouvellement politique en France et en Chine. Le renouvellement politique est-il un thème ou un tabou?
C'est presque les deux, puis c'est un tabou, et on l'a vu récemment avec les élections à Taïwan. La première dépêche de l'agence officielle de presse Xinhua a cité la défaite d'Eric Chu, le candidat du Kuomintang qui est proche de Pékin, ce qui lui a permis d'éviter de parler de la victoire de l'indépendantiste Tsai Ing-wen. Alors sur le renouvellement de la classe politique vu par le président Xi Jinping, c'est la fameuse purge continue depuis son arrivée au pouvoir en 2012, avec la campagne anticorruption sur le thème, justement, frapper les tigres et les moucherons, qui lui permet d'éliminer les soutiens les plus actifs de ses prédécesseurs. Xi Jinping est quasiment à mi-mandat, il sera au pouvoir jusqu'en 2022 et on devrait connaître probablement le nom de son successeur à l'occasion du prochain congrès du Parti communiste en 2017.
Alors Dominique André, l'actualité chez vous est dominée par la crise économique.
Oui, c'est vraiment un sujet central qui est traité alors différemment selon le type de journaux. Il fait par exemple la une de la presse chinoise en anglais, qui est une presse qui cible les étrangers, comme par exemple le China Daily et le Global Times. Le China Daily a mis en première page cette semaine la plongée de la bourse de Shanghai, mais en même temps, le journal anglophone s'est voulu rassurant en expliquant que les ventes liées à la panique boursière ne mèneront pas à la détérioration de l'économie. Ce qui est plus intéressant pour nous, c'est de regarder la presse en caractère chinois, où le sujet n'est pas à la une, il faut vraiment le chercher dans les pages d'intérieur. Par exemple, dans le Nangfang Jumo, qui est le plus grand hebdomadaire chinois, le journaliste soutient l'action du gouvernement et il explique que le gouvernement était vraiment obligé d'intervenir en resserrant l'endettement des gros spéculateurs. L'autre gros sujet qui est traité par la plupart des journaux ici en caractère chinois, c'est le P2P, dont on n'a pas beaucoup parlé en France et peut-être même pas du tout. C'est le crédit de pair à pair. C'est une finance entre particuliers sur les réseaux mobiles et ça marche très très fort en Chine. Le P2P, en fait, permet d'emprunter ou de prêter de l'argent sans passer par la banque. Et cette méthode est bien sûr dénoncée par tous les journaux chinois.
Et pour maintenir le moral des Chinois et la stabilité du pays, Dominique André, que dit la presse chez vous?
Alors le quotidien des affaires du 21e siècle, qui est l'un des meilleurs quotidiens économiques, martèle au cours de ses pages que la baisse de la croissance n'entraînera pas un atterrissage brutal de l'économie. Et grâce à qui? Grâce à la consommation intérieure et notamment celle de la ménagère chinoise de moins de 35 ans, qui est une grande consommatrice exigeante, dont les revenus progressent malgré la détérioration de l'économie. La jeune ménagère chinoise achète beaucoup de produits chinois sur Internet à partir de son téléphone mobile. Les quotidiens citent les chiffres, 50% des achats sur Internet en Chine se font maintenant à partir des mobiles.
Et puis Dominique André, je crois que le nouvel an chinois approche, hein, c'est le 8 février prochain, les Chinois vont beaucoup consommer. Est-ce que les journaux en parlent déjà ?
Oui, tous les jours, la presse chinoise et la télévision nous en parlent. La presse nous rappelle que le régime travaillera d'ailleurs dur pendant les festivités pour préparer notamment la session de printemps de l'Assemblée nationale populaire début mars. Le Beijing News, qui est un quotidien très lu, publie à la une aujourd'hui la photo de la prestation de serment du nouveau comité permanent de l'Assemblée nationale populaire. Pendant ce temps, les Chinois pourront donc consommer effectivement et se divertir pendant que le régime travaille. Le magazine Kan Tianxia, qui est l'observateur de l'Empire, fait sa couverture sur le singe, l'animal du zodiaque chinois à l'honneur cette année. Il titre « Pourquoi tout le monde aime le roi des singes ?» Alors pour les Chinois, le roi des singes est le personnage le plus populaire de la littérature enfantine et des dessins animés. Il est intelligent, il est farceur et en plus, il ne renonce jamais face aux épreuves. C'est une sorte de héros à l'énergie positive, chère à Xi Jinping.
Merci Dominique André, correspondante de France Culture et Radio France à Pékin, avec l'aide de Renaud Despan. Merci à tous, l'émission se termine. J'ai eu le plaisir de recevoir ce matin Yves Tréhard, éditorialiste et directeur adjoint de la rédaction du Figaro. Nicolas Chapuis, journaliste au service politique du Monde. Merci à vous. Jérémy Collado, journaliste notamment pour le trimestriel Charles et Slate. Et Alexandre Malafaille qui était avec nous au téléphone, président du think tank Sinopia et auteur de Reprenons le pouvoir. Dominique André, un grand merci à Pékin, notre regard extérieur qui nous a accompagnés aujourd'hui, Isabelle Véramasson, historienne, sociologue des médias, directrice du laboratoire communication et politique au CNRS, le clin d'œil de Yacine Bouzard. Dans les coulisses de l'émission, Antoine Tricot, Mathias Mégy, Vincent Abouchard, avec aux manettes aujourd'hui Jean Frédérix. Dans un instant, le journal d'Élodie Forêt, suivi de répliques, Penser l'écologie, Alain Finkielkraut, qui est devenu immortel cette semaine en faisant son entrée à l'Académie française. Alain Finkielkraut reçoit Catherine Larère et Michel Deguy. C'était Le secret des sources sur France Culture, à retrouver sur franceculture.fr. Rembobinage, le journal réplique. Bonne journée sur Culture.
Je pense qu'aujourd'hui, là, on parle pas assez de la précarisation totale des journalistes de ce métier. Sur une année, la moitié des cartes de presse qui sont données aux journalistes sont données à des gens qui sont pas en CDI. Moi, par exemple, je suis journaliste indépendant. J'ai décidé d'être indépendant pour l'instant. Et je sais que ça me porte vers des thématiques aussi vers lesquelles je suis plus concerné.
C'est plus simple de parler de bataille entre Sarkozy aujourd'hui et Juppé que d'aller raconter le quotidien, est-ce qu'ils défendent des idées, etc. On raconte, on met en scène beaucoup cette bataille-là, mais c'est beaucoup trop long. On écrit plein de fois le même papier, en fait, et on va en écrire encore plein d'ici 2017.
Vous devriez, vous les médias, comme vous le faites maintenant, merci, d'ouvrir davantage vos colonnes, vos antennes, aux gens de la société civile qui sont porteurs de choses intéressantes, sachant que la société est prête. 70% des Français sont aujourd'hui prêts à se réunir au-delà des clivages partisans.